Bonjour, bienvenue pour cette rencontre consacrée au roman policier ou au roman noir. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais certainement au cours du débat, on arrivera peut-être à une définition plus pertinente. Disons pour l'instant un roman noir argentin qui rassemble alors Nestor Ponce qui enseigne à l'université de Rennes. Vous êtes à la fois critique et romancier. Vous avez publié 3 romans, un recueil de nouvelles et un certain nombre de livres sur l'Argentine et plus particulièrement sur la culture argentine et plus particulièrement encore justement sur le roman noir ou le roman policier. Donc vous êtes notre spécialiste, et vous allez pouvoir certainement nous éclairer sur cette question. Elsa Osorio, bienvenue, Elsa, je suis ravie de vous retrouver. Elsa, dont un roman, Loup sous le temps sauvage, a été traduit chez Anne-Marie Métayer, un livre dont on pourrait dire qu'il s'agit peut-être d'un roman noir. En tout cas, ce qui y est raconté n'a rien de très joyeux. Mais est-ce que c'est un roman policier ? Nous allons le savoir au cours du débat, je l'espère. Carlos Sampaio était déjà là hier pour parler de la bande dessinée, mais il est aussi romancier. Et ses livres sont publiés précisément dans des collections qui sont cataloguées, en tout cas en France, comme des collections policières, à savoir la série du Poulpe, la fameuse série du Poulpe dans laquelle vous avez publié un livre, la série noire chez Gallimard, qui est un petit peu la plus connue, en tout cas, des séries policières. Et puis, le plus récent, L'année où le lion s'est échappé, qui vient de paraître chez Anne-Marie Métayer. Anne-Marie Métayer, qui est un éditeur qui a le bon goût, je ne sais pas si, de ne pas cataloguer ses livres d'une manière très spécifique, c'est-à-dire que de temps en temps, elle signale par une petite note qu'il s'agit d'un roman noir, comme c'est le cas par exemple du dernier livre de Mempo Giardinelli, qui est à ma droite, Les morts sont seuls. Parfois, aucune mention particulière n'est indiquée sur la couverture pour signaler qu'il s'agit ou non d'un roman policier. Donc après, c'est à la guise du lecteur de choisir de quoi il s'agit. L'angle du roman noir, du roman policier, paraît une excellente approche de la littérature argentine, parce que si on fait un petit sondage en regardant les catalogues des éditeurs français et en regardant ce que les éditeurs français proposent à leurs lecteurs en matière de romans noirs originaires d'Amérique latine, on s'aperçoit qu'il y a en gros 3 foyers, qu'il y a Cuba, qu'il y a le Mexique et qu'il y a l'Argentine, et l'Argentine très loin devant tous les autres pays, à la fois en termes de variété, en termes de quantité aussi. Alors, est-ce qu'il y a, ça peut vouloir dire 2 choses, ça peut vouloir dire qu'il existe une vitalité particulière du roman noir en Argentine, ça je crois que c'est indéniable, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un intérêt particulier, une prédilection de l'édition française ou du public français pour les romans noirs en provenance d'Argentine. Ça veut dire aussi que c'est peut-être l'Argentine est peut-être le berceau de la littérature policière latino-américaine. Je crois qu'on peut faire remonter la tradition du roman noir ou du roman policier pratiquement au XIXe siècle, qu'elle a été très très largement illustrée au cours du temps. Donc je voudrais poser une première question à Nestor Ponce, peut-être pour situer un petit peu ces tableaux. D'une part, est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce que la littérature policière est particulièrement vivante en Argentine plus que de n'importe quel autre pays d'Amérique latine? Ça, c'est la première question. Ou est-ce que c'est la curiosité du public français, de l'édition française, à cause des liens particuliers qui unissent l'Argentine et la France, qui a donné une importance particulière à cette tradition?
Oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je crois qu'effectivement, il y a une vieille tradition qui remonte au XIXe siècle. Les premiers livres, les premiers romans policiers étaient publiés en Argentine, donc en langue espagnole. Donc il était publié en 1877. C'était annoncé comme une trilogie. Finalement, il n'y a que deux textes qui ont été publiés. Pour quelqu'un qui faisait partie des couches dominantes, ce qu'on appelle chez nous la génération de 1880, c'est-à-dire une génération intégrée par des hommes politiques et des intellectuels en même temps. Donc, et ensuite, il y a eu toute une continuité. Donc, tout au long du XXe siècle, c'est une tradition qui s'est maintenue. Même à la fin du XIXe siècle, il y a eu d'autres romans policiers qui ont été publiés. Et puis, il y a eu des écrivains qui n'étaient peut-être pas considérés à l'époque comme des écrivains de policiers tout court, hein, mais qui ont anticipé un petit peu le roman noir. Je vais parler de Roberto Alt, hein, qui dans les années 20, années 30, a publié, pas recueilli dans des recueils de nouvelles, mais plutôt dans des journaux, dans des revues, toute une série de textes policiers et noirs qui anticipent en fait le renouveau du genre policier américain des années 20. Hein, tout ce qui est la tradition de Chandler, Hammett, etc. Donc il y avait vraiment un mouvement parallèle en Argentine. Puis il y a eu dans les années 40 l'intervention de Borges et Bioy Casares, donc à partir de la création d'une collection populaire, le 7e cercle, hein, le 7e cercle de l'enfer, qui a permis, qui a fait connaître des romans policiers traditionnels plutôt, hein, des romans, je dirais, d'énigmes, mais aussi quelques auteurs argentins et de l'Uruguay. Et puis, je survole rapidement, années 70, je dirais lié à la situation politique, à la situation sociale, les romans noirs, les romans policiers, a été une façon de s'exprimer. Il y a eu beaucoup d'écrivains, dont même Paul Giardinelli qui est ici parmi nous, donc qui ont renouvelé les genres. Alors, je pense que c'est un type de récit qui est très actif en Argentine et qui a une vie dans les maisons d'édition qui est considérable et très importante. Mais il ne faudrait pas oublier non plus que les écrivains qui pratiquent les récits noirs ne se cantonnent pas, hein, dans cette expression.
C'est vrai, ouais.
Donc vous allez trouver donc même pour qui est là donc est un exemple donc qui font autre chose en même temps. Donc la question se pose, s'agit-il des romans noirs ? Est-ce qu'il n'y a pas de choses ? Il y a littérature qui est un nom et un adjectif, qui est littérature policière, roman qui est un nom et un adjectif roman noir. Et moi, je dirais il y a les deux choses. Donc il y a d'une part la littérature, et ensuite il y a une littérature qui a des caractéristiques particulières et qui sont prisées, qui sont importantes en Argentine. Et la deuxième partie de votre question concernant si l'Argentine est le foyer de ce renouveau du genre policier, je dirais oui avec l'Espagne. Il ne faudrait pas oublier non plus l'Espagne, oui. Avec Vázquez Montalbán, oui, Juan Madrid, Andreu, oui. Martín. Le Mexique aussi, et le Mexique aussi, Cuba. Mais Cuba, c'est un cas particulier, oui. Parce qu'au départ, le roman policier cubain était très lié à l'État, donc c'était un roman politique qui faisait en quelque sorte le jeu du parti au pouvoir. Alors que ces dernières années, il y a eu quand même un renouveau, donc je pense en particulier à Leonardo Padura, mm-hmm. qui publie dans la même maison d'édition et Métellier, qui introduit quand même quelques éléments qui sont tout à fait nouveaux dans le genre policier. Donc si les romanciers noirs de l'Argentine ont des répercussions, ils sont connus en France, je pense que c'est tout à fait légitime et que c'est dû à la qualité de ces textes qui sont reconnus, qui sont lus en Argentine et en Amérique latine, et c'est justice.
Oui, vous posez très bien le problème, Nestor Ponce, parce que vous dites que le roman policier est écrit par des gens qui n'écrivent pas forcément exclusivement du roman policier. Il y a même, après tout, un roman policier de Juan José Saer. L'enquête, c'est un roman policier. Ça veut dire que des auteurs qui sont catalogués, si j'ose dire, pour reprendre les distinctions qui sont peut-être pas valables en Argentine, en tout cas en France, littérature générale, n'ont pas l'impression de déroger en écrivant un roman policier. À l'inverse, les auteurs qui sont catalogués chez nous comme écrivains de romans policiers, je me demande comment ils se considèrent eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai un petit peu l'impression qu'aucun des auteurs présents ici, à cette tribune, n'a véritablement écrit de romans policiers. C'est une manière peut-être un peu provocatrice de poser la question, mais je sais que même Paul Giardinelli hier s'insurgeait contre le fait qu'on le catalogue, ou avant-hier, je ne sais plus, s'insurgeait contre le fait qu'on le catalogue dans la littérature policière, alors qu'il transcende largement le genre. Et je voudrais prendre l'exemple de Elsa Ottorio. L'Ouse ou le temps sauvage est un livre dans lequel il y a une enquête, il y a une recherche, il y a une énigme, il y a des enlèvements. Donc il y a, si j'ose dire, tous les ingrédients habituels d'un roman policier, et en même temps, ça n'en est pas un, ou alors c'en est un beaucoup plus grave que ce qu'on met généralement sous l'étiquette roman policier, puisqu'il s'agit quand même d'un, d'une sorte de jeu littéraire, alors que là, on a l'impression que le roman est en prise directe avec une réalité tragique qui a été la réalité de l'Argentine pendant un certain nombre d'années. Alors, Elsa Osorio, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette appellation roman policier ? Est-ce que vous avez l'impression d'être un auteur de roman policier, ou est-ce que ce terme vous dérange, ou pas du tout ?
Bon, je ne m'étonne pas qu'il y ait des traces de romans policiers dans mon écriture, parce que c'était mes premières lectures. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire, je suis plongée complètement sur cette collection qui a cité le Septimo Circolo, qui était fondée et dirigée par Borges et Bioy Casares. Et disons que je ne suis pas entre poupée et cahier d'école, Rajuela, c'était Wilkie Collins, Hadley Chase, Vera Gaspari, Patrick Kenton. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour la lecture. C'est pour ça peut-être que les préjugés contre les romans policiers comme un genre mineur ne m'a jamais touché. Parce que je me suis dit comment un genre qui m'a provoqué un tel plaisir pouvait être un genre mineur. Parce que j'ai commencé ça, disons, à 10 ans, 11 ans.
Ouais. Et puis un genre introduit par des personnalités telles que Borges ou Bioy Casares, effectivement, c'est quand même...
Et en plus, qu'il y a des très, très bons écrivains. Ouais, ce n'est pas, disons, le roman noir. C'est plutôt le roman d'intrigue anglais. Et alors, bon, je n'ai pas voulu écrire avec Luz un roman policier. Tout ce que je savais, c'est que je devais chercher une stratagème pour saisir mon lecteur, parce que je voulais lui raconter une histoire que ce n'était pas très, très facile à lui raconter, c'est-à-dire à saisir son attention. Et alors, j'ai pris vraiment, mais sans, c'était pas une chose exprès comme ça. La méthode du roman policier. Et vraiment, je reconnais qu'il y a tous, il y a un crime, et après il y a une enquête sur ce crime. Oui. Il y a encore une autre chose qui même Borges dit, que le narrateur du roman policier ne connaît pas bien l'histoire qu'il raconte. Mm-hmm. Et c'est ce qui m'arrivait à moi, c'est-à-dire bon, je connaissais les faits, mais disons je ne savais pas pourquoi. Et alors, dans ce point de vue, il y a aussi un dialogue entre fille et père, que c'est aussi, le Sherlock Holmes et Watson, ils sont un peu la père-fille. Mais il y a une particularité, je me suis posé cette question beaucoup après écrire ce roman, c'est qu'ici, le détective, qui est l'héros du roman policier, coïncide avec la victime dans mon roman. C'est-à-dire, c'est une victime qui en même temps peut faire cette enquête parce qu'elle est vivante.
Sur son passé, oui. Ouais.
Et alors ça, c'est, si vous voulez, je me posais la question, quelle est l'intrigue si au début, dans les prologues, on le sait. Et alors peut-être l'intrigue, c'est pas qui a commis les crimes, sinon sur la nature des crimes. Ouais. Une question qui ne se résoudre pas dans le roman, bien évidemment.
On a l'impression, effectivement, que vous utilisez les uns et les autres le cadre traditionnel, les règles du genre policier, pour le détourner à votre propre usage. Dans le cas de Carlos Sampaio, je disais que ses romans précédents sont parus dans des collections identifiées comme des collections de littérature policière. Donc, à la limite, on peut dire, voilà, là, la question est simple. Celui-ci, L'année où le lion s'est échappé, rien ne permet de savoir s'il s'agit d'un livre policier ou pas. Et cependant, il y a une tradition, me semble-t-il, qu'on trouve dans toute la littérature argentine et qui est très amusante. C'est cette tradition où on trouve le monde résumé par une pension de famille. Alors, on a une pension de famille dans laquelle on a toutes les couches de la société qui sont représentées. On trouve ça dans les, en particulier, je ne sais pas, dans les livres de Marco De Nevi, je pense à Rosa ce soir, où il y a histoire de pension de famille comme ça, également, où un crime est commis. Alors là, il y a une pension de famille. Il y a dans cette pension toutes sortes de gens, dont un pickpocket. Et ce pickpocket est quelqu'un de très habile. Personne n'a repéré ses activités. Si ce n'est que quelqu'un, tout de même, malgré sa grande discrétion, a repéré un petit peu son trafic et a décidé de l'employer à des fins un petit peu étranges. Alors, pour vous donner tout de suite quand même le ton du livre, c'est que cette année-là, on est en 1957, un lion s'est échappé du cirque Ferrari, de la ménagerie du cirque, et donc il fait les gros titres des journaux, il n'est question que de ce lion, Léon, qui court les rues, et comme le pickpocket en question s'appelle Léon, il a l'impression que les journaux ne parlent que de lui. Donc c'est la première remarque, c'est qu'effectivement, c'est un cadre policier, mais qui est pris d'une manière un peu ironique, sous forme un petit peu d'un pastiche. On a l'impression d'une utilisation humoristique du genre policier.
Bueno. En principio pienso que en una sociedad criminal, como es la sociedad argentina históricamente, basada sobre el crimen y la eliminación de unos sobre otros a lo largo de prácticamente toda su historia, y articulada sobre un estado policial en general, porque es la lógica forma que asume el Estado para defenderse, es decir, el gobierno a través de los mecanismos del Estado para defenderse. Lo que le queda al ciudadano como mecanismo de supervivencia moral, en todo caso, es la transgresión. Esta transgresión puede ser secreta o activa.
Oui, je pense que dans une société criminelle, comme l'est la société argentine tout au long de son histoire, une société fondée sur le crime, sur l'exploitation des uns par les autres, une société qui s'articule au moyen d'un État policier, qui est l'arme logique d'un gouvernement qui ne dispose pas des mécanismes habituels lui permettant de gouverner correctement. Et donc, dans une société de ce type que je viens de décrire, pour survivre, on n'a plus guère que la transgression cachée ou la transgression ouverte.
En el terreno específico de la literatura, de aquellos que escriben a lo largo de la historia de la literatura argentina, con cierta mirada sobre la realidad, no específicamente comprometidos, no en modo activo tampoco, algunos sí, y otros no pueden evitar y sentir también este tipo de necesidad de transgresión que es volcado en la escritura, cobrando una forma que puede llamarse policíaca, pero que en realidad no sé si lo es, en todo caso es criminal más que policíaca. Contra el crimen, y en una sociedad criminal, literatura criminal. Y en este sentido, justo lo que decía antes Ponce y Roberto Arlt en la era moderna, quería entenderlo, inaugura de alguna manera, incluye en sus relatos breves, pero también en sus grandes novelas, a las grandes organizaciones criminales, en este caso con el agregado del elemento psicopatológico colectivo, ¿no? Como en el caso de la saga de los Siete Locos, y los lanzallamas, que para mí, digamos, desde el punto de vista de la clasificación en género, podríamos decir que son dos novelas policiales, pero me parece que esta clasificación, salvo en los casos de especificidad absoluta, no tiene mucho sentido, sobre todo en la literatura argentina. Simplemente pienso que la tendencia a este tipo de literatura o de su atmósfera es una respuesta sensible y más o menos transgresora, incluso inocentemente transgresora, a un estado de opresión, de corrupción y de crimen permanente, crimen específico, crimen contra las capas más desprotegidas de la sociedad.
Oui, dans la littérature argentine, tous les écrivains qui écrivent, disons, sur la réalité des choses, je ne veux pas dire par là que ce sont des écrivains tous engagés, ils ne le sont pas nécessairement, certains d'entre eux le sont, d'autres non, mais tous ces écrivains qui écrivent à propos de la réalité n'évitent pas cette notion de transgression, passent tous par cette logique de transgression. Et je crois qu'ils adoptent très souvent la forme policière, peut-être, mais on pourrait davantage parler de la forme criminelle. Ils passent le plus souvent par cette forme criminelle, car à société criminelle, littérature criminelle en quelque sorte, et Néstor Ponce tout à l'heure parlait de Roberto Hard qui était un peu au début, à l'origine de cette tradition dans ses récits et dans ses romans, et qui mettent en scène en fait de grandes organisations criminelles et qui font appel aussi à la psychopathologie, notamment la psychopathologie collective. Alors finalement, on peut classer bien sûr les genres, on peut parler de romans policiers, mais pour moi, tout cela n'a pas trop de sens, surtout quand il s'agit de littérature argentine. Je le répète, la littérature argentine est issue en fait d'une réaction transgressive contre l'oppression. L'oppression exercée par la voie du crime, par un gouvernement sur les couches les plus vulnérables de la société.
En la parte más reciente de la historia argentina, durante la década de Menem, se organiza un estado criminal moderno. Es decir, sin la necesidad de apelar a la masacre, como en la época de los militares, se registra una clara tendencia al profit, a la ganancia, y articulando una serie de elementos del propio Estado, digamos, a través de una red perfecta de corrupción que parte, en principio, de la difusión de esta corrupción en amplias capas de la sociedad que terminan de estar de acuerdo por omisión, de alguna manera, y por recibir cierto beneficio engañoso. En este periodo en Argentina, yo he estado haciendo un recuento, se escriben una cantidad de novelas policíacas muy considerables y muy buenas, es decir, y muy variadas. Incluso hay una que leí hace un par de años que se desarrolla en las Islas Malvinas, es decir, un caso dentro de las Islas Malvinas. Digamos, con esta mención al periodo de Menem, quiero de alguna manera, si no demostrar, por lo menos poner un ejemplo que se puede discutir, ¿no?, de que esta situación criminal, organizada, estatal, gubernativa, social, en definitiva, genera un tipo de literatura donde el crimen y también la investigación criminal o lo que sea dentro del género, cuando es género, está absolutamente presente. En cuanto a la última parte de su intervención, pienso que mi última novela no es una novela policíaca ni de género. Efectivamente, no se publicó en español tampoco dentro de colecciones de género.
Oui, dans l'histoire beaucoup plus récente de l'Argentine, la décennie pendant laquelle l'Argentine a été gouvernée par Menem et toute sa bande, nous assistons à l'organisation d'un État criminel moderne. En fait, c'est un État criminel qui ne procède plus, qui ne fonctionne plus avec des massacres, comme c'était le cas sous la dictature. Ce n'est plus nécessaire. Désormais, c'est un État qui fonctionne en articulant tous les éléments du gouvernement, en un immense réseau de corruption qui finit par avoir une diffusion très large, qui infiltre des couches très nombreuses et très variées de la société, qui est donc complice dans une très large mesure. Et pendant cette période, c'est très intéressant, j'ai un petit peu fait le décompte, j'ai pu remarquer qu'il s'est publié énormément de romans policiers en Argentine, et des romans très très bons, de très bonne qualité et très variés. Notamment un roman dont je me souviens particulièrement, qui se passait justement dans les îles Malouines. Alors on pourra en débattre si vous le souhaitez, mais pour moi, il me semble évident qu'une situation criminelle comme celle que je viens de décrire génère une forme de littérature qui n'apparaît pas par hasard. Et enfin, pour terminer et répondre à la dernière partie de votre question, je vous dirais qu'effectivement, ce dernier roman dont vous parliez n'est pas un roman policier au sens propre du terme, et d'ailleurs, en Espagne non plus, il n'a pas été publié sous l'étiquette policière.
Oui, je crois que le problème des définitions va se poser constamment parce que la conception que nous avons du roman policier est un petit peu différente de celle qui est pratiquée par les écrivains argentins. Alors, dans le cas de Mempo Giardinelli, on pourrait penser au départ que le cas est relativement simple puisque de ses romans publiés en français, l'un est paru dans une collection, Le Poulpe, qui est une collection évidemment qui revendique la connotation policière. L'autre roman, dans la série Noire, aucun doute. Et le plus récent, Les morts sont seuls, dans cette collection de Marie Métayer, mais avec un petit cartouche indiquant Noir. Alors on a effectivement deux personnages, José et Carmen, qui sont argentins, qui ont milité ensemble contre la dictature argentine. José regrette de ne pas avoir su peut-être dire, quand il en était encore temps, à Carmen combien il éprouvait d'amour pour elle. En tout cas, la vie les a séparés, ils se sont retrouvés au Mexique. José vit à Mexico et Carmen est partie vivre dans les lointains du Mexique, à Zacatecas. Et un jour, José reçoit un appel d'une amie de Carmen pour lui dire, c'est un appel au secours, le mari, car Carmen s'est mariée entre-temps, le mari de Carmen vient d'être assassiné, et Carmen est si inquiète qu'elle appelle au secours. Donc José se rend auprès d'elle, il ne comprend pas très bien ce qui se passe, il ne pourra pas faire grand-chose, et il ne pourra pas empêcher d'ailleurs la mort de Carmen, dont on ne sait pas très bien dans un premier temps s'il s'agit d'un assassinat ou d'un suicide. En tout cas, il y a une enquête avec des policiers, il y a une enquête avec un détective qui joue un rôle. Donc tout le cadre habituel du roman policier est absolument respecté. Et je voudrais simplement vous lire quelques lignes qui sont les réflexions que se fait José à un moment donné de l'enquête. Voici ce qu'il dit. « Où était notre faute si notre génération avait été condamnée à l'excès et au mépris de la démocratie, à l'autoritarisme et à la violence ?» Au besoin maladif d'écraser l'adversaire. Quelle était notre faute quand nous dévalorisions la démocratie parce qu'on nous avait condamnés à l'irréflexion, à l'aveuglement et au fanatisme, et que personne ne nous avait appris ce qu'était la démocratie, qui n'a été que le mot du grand mensonge de l'histoire argentine. Et alors, tout à coup, on s'aperçoit que ce qui est en cause, c'est une réflexion sur la culpabilité. Alors, les romans policiers dans lesquels, tout à coup, l'énigme se trouve dans le passé des personnages, c'est une figure classique. Tous les lecteurs de romans policiers sont très habitués à cette figure, à ce genre particulier. Mais ici, tout à coup, on a une réflexion sur l'histoire de l'Argentine et sur la culpabilité. Culpabilité, évidemment, des dictateurs argentins. Culpabilité aussi, d'une certaine manière, des opposants à la dictature. Et du coup, ce qui paraissait une intrigue policière classique au départ prend, je dirais, un sens, une gravité beaucoup plus importante, puisqu'on a l'impression de lire un livre sur l'histoire de l'Argentine, et au-delà d'ailleurs de l'histoire de l'Argentine, sur l'histoire des rapports entre l'Argentine et le continent européen. Oui, ça ne ressemble pas à une question, même pour Giardinelli.
Merci. Yo trabajé el género negro o el género policial como una afición de mi vida desde que empecé a leer y a escribir prácticamente. En los años, fin de los años 60 y comienzo de los 70, en Buenos Aires había una gran corriente de recuperación del género policial. Yo entré a él gracias a Osvaldo Soriano, con quien fuimos muy amigos de muchachos y compartíamos una pequeña pensión como dos provincianos que llegamos a Buenos Aires. Y durante varios años leí casi todo lo que había sobre el género escribí muchos artículos e incluso enseñé después en la universidad. Producto de eso es un libro que se titula El género negro y cuya primera edición salió en México en el año 1984. Es el libro que ha sido muy consultado y ha habido varias ediciones, la última en México, en Argentina, la última del 2000. Yo fui sintiendo en cada reedición y con las sucesivas lecturas que el libro valía, y a mí me había sido muy útil, como una historia del género. Y me había servido para establecer las dos grandes corrientes que el género ha tenido. Lo que llamamos el género clásico, es decir, la literatura de enigma, la literatura de crimen y misterio. Y luego, a partir, como todos sabemos, de los años 20, de 1924 en Estados Unidos, a partir de Dashiell Hammett, lo que hoy llamamos el género negro, es decir, aquel que se ocupa mucho más de la violencia de la parte negra de la sociedad, y que es un género que evidentemente en nuestra América ha tenido y tiene aún hoy un enorme desarrollo.
Oui, je me suis beaucoup intéressée, toujours, aussi loin que je m'en souvienne, intéressée au roman noir et au roman policier. C'est une passion que j'ai éprouvée depuis que j'ai commencé à lire et aussi à écrire. Dans les années 60-70, à Buenos Aires, on assistait à une véritable renaissance, à une sorte de relance du genre policier, du roman policier. Avec mon ami Soriano, nous étions deux provinciaux, nous étions dans la même pension de famille, et nous en avons beaucoup parlé, et moi-même j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai écrit plusieurs articles, j'ai enseigné d'ailleurs sur cela, j'ai donné des cours, et j'ai fini par écrire un livre qui résume un peu mes idées, qui résumait un peu mes idées sur la question, un livre intitulé « Le genre du roman noir », qui a été publié une première fois en 1984, mais qui a connu plusieurs éditions par la suite au Mexique, en Argentine. La dernière remonte à l'an 2000. Et à chaque réédition, je me suis fait la réflexion que finalement ce livre, qui se voulait l'histoire d'un genre, était l'histoire de deux genres. Le genre classique, c'est-à-dire le roman policier de crime, de mystère et de résolution du mystère, et nous le savons tous, le genre plus nouveau qui est né aux États-Unis avec Dashiell Hammett en 1924, ce que l'on appelle le roman noir, c'est-à-dire le roman qui fait l'histoire de l'aspect sombre, du côté sombre et violent de la société.
A partir de esa experiencia y de ver que algunos de mis libros, particularmente mi libro más conocido y que más ha circulado y más traducido, que es Luna Caliente, siempre era clasificado y sigue siendo clasificado como el género negro, y yo siempre tuve una gran resistencia a que un género determine solamente un libro. Yo he escrito 9 novelas, de las cuales quizá en sentido estricto cabrían dentro del género 3 o 4. En un sentido más amplio podrían caber todas, y mucho más amplio ninguna. Y eso me hizo pensar en los últimos años que en realidad, si lo que determina el género es la naturaleza del crimen, la culpa, la megalomanía del ser humano que siempre busca poder, gloria, dinero, la traición, con o sin contenido social, y personalmente pienso que siempre hay una referencia social, porque la literatura siempre es alusión. Empecé a pensar que quizá toda la literatura puede caber en el género negro. La Biblia es un fascinante novelón policial. Si uno lo mira en nuestra literatura, Facundo, Sarmiento, es una novela negra. El primer cuento argentino, El Matadero, es un cuento perfectamente negro. Roberto Aal, como bien decía Sampaio, y mucha de nuestra escritura. Los cuentos de amor, de locura y de muerte, muchos de ellos tienen un carácter que luego yo lo he visto en mucha literatura del oeste norteamericano. En mi libro dedico un capítulo a establecer los las intertextualidades entre el género negro, por ejemplo, Stephen Crane, O. Henry, o Bret Harte, y Hammett, o McCoy, o Jim Thompson. Y entonces empecé a pensar que quizá estamos en presencia de un género extraordinariamente literario, porque todo le cabe. Y esto me produjo una crisis, y este libro, Le Mort sans Sel, que son los que han muerto, es producto de esa crisis. Este libro yo lo escribí cuando estaba, por eso ayer decía, le decía a Gerard, que era en cierto modo para mí como una despedida o un libro contra el género, pero no para anularlo, sino creo para entender que ese género es profundamente literario y mucho más abarcativo que la concentración en una sola concepción. Y
par la suite, j'ai vu que la plupart de mes livres, les plus connus, notamment Luna Caliente, ont été qualifiés, disons, de romans noirs. Et ça ne m'a pas trop plu. Ça ne m'a pas trop plu que l'on range comme ça un livre dans une catégorie de façon très sèche et très limitative. Moi, je pense que l'ensemble de mes livres, la plupart de ceux que j'ai écrits en tout cas, ne relèvent pas d'un seul genre. C'est tout à fait clair. Alors, si ce qui détermine l'œuvre policière, le roman policier, c'est la faute, la culpabilité, la recherche de la gloire, la recherche de l'argent, la trahison aussi, et en outre le référent social, la référence à une société, car il n'y a pas de littérature sans référence à une société donnée, eh bien alors on peut dire que toute la littérature entre dans le genre du roman policier. La Bible, pour commencer, est le plus grand des romans policiers. Et je peux citer bien d'autres choses, Facundo Sarmiento est un roman noir, et l'abattoir Matadero, un des récits fondateurs, est tout à fait un roman noir, les contes d'amour, de folie, de mort, toutes les versions américaines que l'on peut citer, Crane ou Henry, etc. Tout cela, finalement, entre dans cette définition. Donc, en fait, la littérature, d'une certaine façon, a complètement avalé le roman policier ou le roman noir, ou bien le contraire. Et en ayant constaté cela, j'avoue que je suis tombée dans une sorte de crise. Et le livre qui vient d'être présenté ici est un peu le produit de cette crise. C'est aussi un peu un adieu au genre. Ce n'est pas du tout pour annuler, disons, ce genre littéraire, mais dire que la littérature, au sens le plus large, c'est le roman noir.
Y desde ahí creo que podemos entender, propongo, que toda la literatura de los últimos 30, 40 años en América Latina y en la Argentina, toda la literatura aborda de distintas maneras nuestra tragedia. Y esa tragedia es profundamente negra, es profundamente criminal. Pero entonces solamente van a ser del género negro aquellas novelas específicamente policiales, con o sin detective o investigador, yo creo que no. Yo creo que dentro de nuestro género, por ejemplo, pienso en novelas fuera de nuestra América. Por ejemplo, ayer yo mencionaba Le Noir, de Jean Simenon. No es una novela criminal, es una novela negra. Pienso en Eva, de James Hadley Chase, me parece una de las grandes novelas de género negro. No hay crimen. Pienso en novelas en Argentina, Triste, solitario y final, de Osvaldo Soriano. Es un clásico del género. Y no es el crimen lo que lo determina. Sin embargo, hay una, me parece, como una temperatura que en otros textos, por ejemplo, No habrá más penas ni olvido, de Soriano, donde el crimen asume un carácter de corporación, ¿no? Tiene un carácter social impactante. A mí me parece entonces que hay cuentos de Abelardo Castillo o de Ana María Shua o una de las últimas novelas de Angélica Gorodischer, que sin necesidad de tener crimen son profundamente negras. Entonces me parece que esto nos da una perspectiva muy saludable, y creo que la literatura argentina, la tragedia argentina, que es una tragedia profundamente negra, que es una tragedia de crimen, de culpa, de no castigo inclusive, que es otra de las paradojas en el caso de la impunidad en la Argentina. Me parece que este es un tema que ha imbuido a toda nuestra literatura de este género, ¿no? Y yo estoy ahora, y con esto también, estoy trabajando actualmente una novela, que es una novela profundamente sexual. Espero indagar en lo más perverso del doble discurso sexual que hay en la Argentina. Es una novela en la que creo que no va a haber ningún crimen, y sin embargo, por momentos siento que estoy haciendo una novela negra, ¿no? Y El décimo infierno, que salió en esta colección, un poco lo que decía Sampaio, es una novela que escribí en el año 95, es una novela que describe el menemismo. No existe Menem, no existe la política, no es una novela política, pero por su inmoralidad, por su amoralidad y por su perversión, es una novela profundamente política y al mismo tiempo una novela negra.
Toute la littérature de ces 30 ou 40 dernières années en Argentine ne parle que d'une chose, de la tragédie que vit, que connaît ce pays, de cette tragédie criminelle qui est celle de l'Argentine. Alors finalement, on peut parler, il y a certains ouvrages qui sont spécifiquement policiers, qu'on peut très clairement étiqueter de policiers, mais il y en a bien d'autres qui, tout en étant des romans noirs, n'entrent pas dans un genre absolument déterminé. Je citais l'autre jour Le Noir de Simenon, je citais aussi Eva de James Hadley Chase. Il n'y a pas de crime, et pourtant, tout est là. C'est le roman noir absolu. Il y a aussi les livres de Soriano, Triste Solo
et
Solitario Final, qui, il n'y a pas de crime non plus, vous ne trouverez pas de crime dans ces pages, mais cela n'empêche pas du tout que ce soit un roman noir. Dans certains romans, le crime social suffit. L'Argentine, en fait, a toujours connu une histoire de crime, de culpabilité et, plus grave encore, d'impunité. Et c'est ces thèmes-là qui ont constamment nourri toute notre littérature. En ce moment, je travaille sur un nouveau roman, un roman qui sera profondément sexuel, qui parlera vraiment du sexe, mais avec toute la perversion du double discours, qui est le discours sur le sexe en Argentine en ce moment. Il n'y aura probablement pas de crime, mais ce sera un roman absolument noir. Et un livre précédent, Le dixième enfer, que j'ai écrit, qui a été publié en 1995, est une description du ménémisme, de la période de Menem en Argentine. Là non plus, il n'y a pas de crime, mais il rend compte de toute la perversité, de toute la cruauté d'une époque.
Alors on pourrait dire en effet, comme le dit même Giardinelli, que toute la littérature relève du roman policier ou du roman noir. La Bible, d'accord. Dostoïevski, pourquoi pas. L'étranger de Camus, c'est un roman policier, d'accord. Mais je me demande si ce n'est pas Nestor Ponce qui apporte la bonne explication dans vos analyses. Non, mais effectivement, j'ai été très frappé par le fait que vous parliez de la crise du réalisme dans la littérature argentine et que cette crise du réalisme amenait à l'utilisation sans complexe, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres littératures, justement du pastiche, des gens considérés comme les gens mineurs, ou précisément du roman policier ou du roman noir, quelle que soit l'appellation qu'on veuille employer, à la fois parce que pour combattre cette crise du réalisme, et aussi parce que ce genre a eu sa dignité conférée effectivement par des gens comme Borges, Bioy Casares, qui non seulement ont dirigé cette collection Le Septième Cercle, mais ont écrit des enquêtes policières. Les enquêtes pour Don Isidro Parodi, c'est de la littérature policière. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cette crise du réalisme? En effet, est-ce que ça n'est pas ça qui explique cette façon qu'ont les auteurs argentins de prendre une certaine distance par rapport à la réalité et cette tendance qu'ils ont à utiliser très volontiers des genres considérés quelquefois dans la littérature européenne comme secondaires?
Oui. Il y a plusieurs choses dans votre question. Je crois tout d'abord qu'il y a un phénomène littéraire qui est là. C'est-à-dire, les romans policiers est un genre extrêmement littéraire dans la mesure où il s'agit d'un genre qui est très codé. Donc quelque chose qui est très codé permet tout de suite les détournements. Et là, c'est fascinant pour un auteur. C'est-à-dire, pouvoir transgresser un genre littéraire permet effectivement de se rapprocher de la réalité. Ce n'est pas simplement un phénomène des styles, ce n'est pas simplement une pratique littéraire purement dite. Sinon, c'est quelque chose qui renvoie tout de suite à la réalité. Deuxième chose, il y a donc une tradition en Argentine, de travailler sur le genre policier. Et je crois que Borges et Bioy Casares ont joué un rôle très important. La littérature policière est reconnue parce que Borges et Bioy étaient derrière une collection policière. Donc c'était des intellectuels qui avaient beaucoup de prestige, et de la sorte, la littérature policière a eu ses lettres de noblesse. Donc les écrivains des récits policiers étaient lus et les genres policiers étaient pratiqués. Et ensuite, troisième partie de votre question, effectivement, il y a une crise du réalisme à partir des années, je dirais, ça renvoie aux années 60, hein, oui, en Argentine, donc où il y a de la littérature d'expérimentation. Et le roman policier permet, en partie, de revenir à une réalité, de pouvoir parler d'une réalité sans se cantonner à des pratiques purement formalistes. Donc ce n'est pas étonnant si Juan José Sáez, que vous aviez cité tout à l'heure, a écrit un roman policier. Oui. Ce n'est pas un hasard non plus si toute une série d'écrivains, et j'insiste parce qu'il me semble que c'est important, ne se cantonne pas dans la pratique exclusive du genre policier. Donc cela permet la création de passerelles. Cela permet un travail sur la langue et de revenir sur certains sujets qui n'étaient pas abordés directement, oui, dans l'autre littérature.
Alors précisément, une précision que je voudrais vous demander, Nestor Ponce, parce qu'on a l'impression que... C'est un peu schématique, évidemment, de caricaturer comme ça la production policière en deux grandes branches, c'est-à-dire le côté ludique du roman policier anglo-saxon, du genre qui a commis le crime, et puis le côté plus noir, du roman noir, qui va fouiller un petit peu les dessous de la société, disons le roman du dur à cuire américain. On a l'impression que les Argentins ont réussi à faire une synthèse des deux. C'est-à-dire qu'ils gardent le côté ludique, évidemment. C'est très présent dans un certain nombre de livres, peut-être pas dans le cas de Elsa Osorio, mais dans les autres livres, le côté jeu d'enquête, jeu d'énigmes, etc. Et puis, en même temps, une volonté de radiographier la société, de donner une dimension politique, sociale, très importante. J'ai l'impression que c'est dans le roman policier argentin qu'on trouve cette synthèse. Est-ce que vous avez ce sentiment, Nestor Ponce?
Comme je disais tout à l'heure, donc effectivement, le roman policier est un genre très codé. Alors, quand je disais très codé, je m'explique. Il y a donc une structure, hein, qui est plus ou moins précise et qui est répétitive. C'est-à-dire, au départ, il y a un délit, suite à quoi il y a une enquête, et à la fin, il y a la résolution de l'enquête. Donc, on raconte une histoire, mais en fait, on essaye de découvrir ce qui s'est passé avant le début de l'histoire. Pour ce qui est du récit noir en Argentine, ces dernières années, je crois qu'il y a un élément qui est très important et qui est lié aussi au contexte social et au contexte politique. Et il y a des personnages qui sont plus ou moins fixes. Vous avez la victime, vous avez les victimaires, il y a un enquêteur, il y a des suspects. Mais ce qui est important dans les récits policiers ces dernières années, c'est en Argentine, c'est l'extrême mobilité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui peut passer, qui apparemment va jouer un rôle et qui va passer à l'autre catégorie. Ouais. Donc il y a chose qui est circulaire. Non, ouais. Et il y a un élément qui est très important aussi, me semble-t-il, c'est l'idée de l'enquête. Donc ce sont des récits d'enquête. Donc même si, comme le cas de Lune chaude de Mempo Giardinelli, ou les cas qu'il citait tout à l'heure aussi de Osvaldo Soriano, Triste Solitario et Final, qui était traduit en français sous le titre de Je ne vous dis pas adieu, donc il y a toujours cette idée d'enquêter. Alors pourquoi l'enquête? Justement, je pense que c'est questionner l'histoire récente de l'Argentine, c'est de poser des questions sur la société, sur tout ce qui s'est passé, sur la répression, sur la dictature.
C'est absolument ce que vous faites, Elsa. Mais dans le problème, enfin, si j'ose dire, c'est qu'on connaît Loup sous le temps sauvage, qui est le seul roman pour l'instant traduit en français. Donc on a tendance à se focaliser et à considérer qu'il est représentatif de toute votre œuvre. Vous avez écrit d'autres livres et, oui, qui ne sont pas traduits. Donc est-ce que toujours il y a ce...
Il va sortir maintenant un autre.
Voilà, alors ça permettra d'avoir peut-être une autre lecture. Mais
Je voulais vous dire qu'il y a toute une tradition en Argentine, surtout lié à Borges et Bioy Casares, c'est aller au-delà de l'énigme. C'est-à-dire, l'énigme est très intéressant pour structurer un récit, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire pour des raisons philosophiques, ou il était très présent. Et je crois que ça nous, sur cette tradition, peut-être on peut s'appuyer pour aller au-delà dans d'autres domaines. Moi, je le prends pour l'histoire, disons. Et en plus, dans cette enquête, disons, est pur réalisme dans l'histoire qu'on vient de vivre. Et si vous voulez, la figure de détective qui est présent dans n'importe quel roman policier, on peut dire que le grand-mère de la place de Mai était de détective. C'est-à-dire, oui, ils ont agi comme détectives. Oui. Et même dans par exemple, ils ont fait des choses comme aller chez un coiffeur pour se faire la pédicurie, je sais pas comment, pour regarder en face ou pour sortir, pour essayer que la femme qui était là lui dise des choses d'une famille. Oui. Ils ont suivi n'importe quel petit papier de piste. Après, ils ont fait des choses même incroyable.
C'est des détectives amateurs, quoi. Oui, oui.
Et ils ont monté 12 étages par l'escalier, alors que le concierge n'était pas là, pour pouvoir se réunir sans. C'est-à-dire, tous les trucs, même quand on voit cette série américaine par la télé où il y a le truc de l'ADN et tout ça, moi je pensais l'autre jour que. C'est grâce à tout son travail, à toute sa lutte, qu'on a découvert, les scientifiques, cette preuve, disons, je ne sais pas le dire en français, on dit la preuve de la Walida. C'est-à-dire qu'il a un 98% et de façon de prouver qui soit un grand-mère ou un grand-père dans de ses enfants volés. Et alors, et tout ça qui sert aussi à d'autres choses du point de vue médical. Et ça, c'est grâce à ces femmes qui, personne ne les donnait, personne, je dis, les ennemis, hein, les donnait beaucoup d'importance parce qu'elles étaient là. Dans un petit café, en parlant de livres, ils avaient même deux mots. C'est-à-dire, toutes les choses qui font les détectives, elles l'ont fait, avec une vie énorme. Et alors, bon, c'est, si je voulais, c'est du réalisme, parler de détectives dans ces cas-là. Oui. Hein.
Alors, pour clarifier un petit peu le tableau, pour ceux qui n'auraient pas lu le roman d'Elsa Osorio, Lou, c'est une jeune fille qui est en révolte contre sa famille, ce qui est un cas relativement classique pendant l'adolescence, mais elle ne partage absolument pas les valeurs de sa famille, qui sont de la grande bourgeoisie argentine, et elle rêve de ne pas être peut-être la fille biologique de ses parents, et il va s'avérer que, en effet, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pendant les années de dictature, un certain nombre de prisonniers, alors en particulier dans le cas des jeunes filles et des jeunes femmes enceintes, étaient gardés dans les geôles de la dictature jusqu'à leur accouchement, et ensuite les enfants, la femme était évidemment éliminée, et l'enfant était confié à une famille d'accueil en mal d'adoption. Et alors, tout à coup, cette jeune fille, dont l'histoire, dont les parents ont été évidemment des opposants à la dictature, des révolutionnaires, se retrouve adoptée, sans le savoir, par une famille qui a été plutôt justement du côté des... Enfin, plutôt, tout à fait, du côté des tortionnaires. Et alors, évidemment, vous imaginez la difficulté, la douleur de la situation. Ce qui est terrible, ce qui est terrifiant dans le cas du livre d'Elsa Osorio, c'est qu'on a l'impression de lire effectivement un roman policier avec toutes les intrigues, tous les rebondissements, tous les ingrédients du roman policier, sauf que quand on lit un roman policier, on sait bien que ça n'est pas vrai. On sait bien que c'est sorti de l'imagination de l'auteur, même si c'est plus ou moins inspiré de la réalité, alors que là, on ne peut pas s'empêcher de penser, en lisant le livre, que c'est un rapport sur des faits qui se sont en effet passés et qui sont avérés. Alors, Carlos Sampaio, je voudrais juste revenir sur cette utilisation ironique ou en tout cas biaisée, enfin, cette façon dont, dont Nestor Ponce disait que le roman policier justement est une façon de répondre à cette crise du réalisme. Dans le cas de l'année où le lion s'est échappé, c'est une histoire qui est, j'allais dire, une petite histoire au moment précisément où il se passe un certain nombre de choses très importantes dans la grande histoire. C'est-à-dire, on est en 1957, il est en train de se passer pas mal de bouleversements, en particulier à Cuba, et la façon de choisir comme angle l'histoire d'un pickpocket dans une pension de famille de Buenos Aires est évidemment une manière assez ironique de brosser un tableau historique aussi de l'Amérique latine.
Bueno, es interesante el hecho de que mencione que este es un momento importante, porque yo creo que en 1956 comienza lo que podría llamarse históricamente el ajuste de cuentas definitivo dentro de la larga guerra civil argentina. Digamos, desde el siglo XIX no ocurría un hecho que ocurrió, un hecho histórico que ocurrió ese año, es que el régimen militar fusiló a otros militares. Los militares nunca se mataban entre ellos desde el siglo XIX. En este momento, aparte de fusilar unos cuantos civiles, en 1956. No quiero entrar en detalles, son detalles históricos. Y en ese momento nace, digamos, la nueva guerra civil que cobra su definitiva fuerza y definición durante, antes y durante la dictadura militar del año 76, 20 años después. Y el hecho mínimo dentro del gran contexto, del gran acontecimiento histórico, refleja una partícula que en todo caso lo que está destinada es a proyectarse y a multiplicarse. Nada más. Yo además no estoy dotado para narrar hechos máximos, más bien mi comprensión se limita a los hechos mínimos, ¿no? En tanto ser humano no omnisciente, puedo imaginar más o menos lo que veo y puedo imaginar que veo lo que imagino, lo que está allí. Y en general son hechos mínimos que están cargados de humanidad. Y por eso elijo este personaje, y el hecho mínimo es en general patético, de allí que para, como autodefensa, como escritor, utilizo el humor, pero sin necesidad de forzarlo, me sale automáticamente. ¿Cuál es el resorte en esta novela? Difícilmente comprensible en francés, que es el lenguaje de esa época. En una sociedad cambiante, como la Argentina, muy cambiante, digamos, dramáticamente cambiante, el lenguaje cambia radicalmente. Y desde 1957 hasta la fecha ha cambiado varias veces, además. La utilización de ese lenguaje, que a mí me sale más o menos naturalmente, porque en esa época era adolescente y lo oía y lo tengo en la memoria, es un modo de responder con ironía y, bueno, a estos hechos dramáticos. No sé si esto completa la pregunta.
Oui, je crois que ce que vous venez de dire, à savoir que mon livre se passe à un moment, à une date à laquelle il se passait des choses très importantes dans la grande histoire, ce que vous avez dit me paraît intéressant, parce qu'en fait, en 1956, qui est donc la date à laquelle vous faites référence, commence ce que l'on peut appeler le grand règlement de compte définitif dans la longue guerre qui a existé tout au long de l'histoire de l'Argentine. C'est le moment où, tout à coup, le régime militaire se met à fusiller des militaires. Cela ne s'était jamais vu jusqu'ici. Les militaires ne s'étaient jamais entretués. Et tout cela commence donc en 1956. C'est le début d'une sorte de nouvelle guerre civile qui prend tout son élan, tout son essor, avant et pendant la dictature militaire. Alors, dans tout ce contexte, moi, je parle d'un fait minuscule, d'un fait minime dans la grande histoire, mais c'est un fragment à partir duquel la réalité peut être amplifiée. Moi, de toute façon, je ne serais pas très douée pour parler des grands faits historiques, des grands bouleversements historiques. Je comprends bien mieux les petites choses de la vie. Je ne suis qu'un être humain. Je vois des faits qui sont ceux des êtres humains, qui sont des faits minuscules, mais très souvent très chargés de pathétique. Et quant à l'humour, il vient tout seul. Il naît tout seul de ces faits profondément pathétiques et minuscules. Et très souvent, je dirais qu'il naît aussi de la langue de l'époque. L'Argentine à une société très mouvante qui a énormément évolué au fil du temps, et la langue a évolué énormément aussi avec cette société. Et donc entre 1956-57 et aujourd'hui, la langue a énormément changé, mais moi je la retrouve sans beaucoup de difficultés, cette langue des années 50, car finalement j'étais adolescent à l'époque et j'ai assez bien pu la reconstituer.
Juste un détail, Carlos Sampaio, est-ce que vraiment la pension de famille est une réalité particulière de l'Argentine? Parce qu'on la retrouve dans beaucoup de romans, on la retrouve dans L'année où le lion s'est échappé, cette pension de famille où toute la société argent de Buenos Aires se retrouve. Je parlais tout à l'heure de Marco De Nevi, Rosa ce soir, qui est une histoire aussi de pension de famille. Alors, c'est une spécificité argentine?
Voilà, l'exemple,
Jordi Levy faisait allusion aussi.
Et l'exemple más emblemático, más perfecto, a mí me parece una novela de Marco De Nevi, que es Rosaura Lavis, que yo creo que está perfectamente definida lo que es una pensión. La pensión en Buenos Aires, específicamente, porque no conozco en otras ciudades, es el lugar donde llega el transeúnte, el recién llegado, antes de la gran migración interna, era donde podía alojarse la persona que llegaba a la ciudad antes de instalarse. En la mayoría de los casos quedaba para siempre, o en esa pensión, en una serie de pensiones. Es un alojamiento más o menos transitorio que se vuelve definitivo. No es metafórico, existe. Yo mismo he vivido en una pensión. Supongo que me importa también por lo que dijo, que cuando llegaste y tantas otras personas que conozco.
Oui, je crois qu'une des figures fondatrices a été celle qui a été créée par Marco, comment l'a dit Marco?
Marco De Nevi.
De Nevi. Oui, des pensions, il y en a beaucoup à Buenos Aires, et en fait, c'est bien normal, c'est à la pension que débarque le provincial récemment arrivé. Buenos Aires accueille des grandes vagues de migration, et pour beaucoup de gens qui arrivent, la pension, c'est le point de chute, et puis bien souvent, finalement, on y reste tout au long de sa vie, pas nécessairement dans la première pension où l'on est arrivé, mais on reste à vivre dans une pension de famille toute sa vie durant. Donc, ce n'est pas du tout une métaphore, hein, c'est vraiment la réalité. Moi-même, j'ai vécu dans une pension, et même pas, je pense, aussi.
En tout cas, c'est un cadre idéal pour une intrigue policière, comme vous pouvez imaginer, puisque toute la société argentine s'y retrouve représentée. On peut très bien avoir un policier, un pickpocket, tout ce monde-là se côtoyant à la même table le soir et se méfiant mutuellement les uns des autres. Peut-être avez-vous, je sais qu'on n'a pas fait le tour, le sujet est tellement riche qu'on ne risque pas d'en faire le tour en une heure, mais peut-être avez-vous des précisions à demander à nos invités, oui, ou des questions à leur poser? Pardon, Mempo. Oui, je vous en prie, Mempo.
Sí, porque me parece muy interesante la idea de Ponce, de Chiquito, de la crisis de realidad. Y quiero retomarla un segundo, porque la novela negra lo que cambia esencialmente respecto del policial llamado clásico es que deja de preguntarse cómo se produjo un crimen, que es la respuesta que plantea Poe, Wilkie Collins, Agatha Christie, Conan Doyle. ¿Cómo se hizo el crimen? ¿Cómo fue que se produjo? Y lo que el género negro plantea a partir de Hammett y de Cosecha Roja es por qué se produjo el crimen. No importa tanto la manera, sino las razones. Y esas razones, la novela policial norteamericana de los años 20 la trajina y la desarrolla, y es por eso son nuestros padres fundadores, desarrolla una novelística donde el crimen tiene características sociales. Esto es los años 20, 30, 40, 50, hasta el macartismo en los Estados Unidos. Esta es la gran novela negra y es la que nos enseña y la que hace de madre o padre de la literatura argentina. A partir de, básicamente, del cambio que significa con Rodolfo Walsh, que creo que es el eje. Porque Rodolfo Walsh escribió sus primeras novelas, Variaciones en Rojo, eran novelas de tipo clásico, cómo se produjo el crimen. Y él da el salto a sus novelas de por qué se produjo con Quién mató a Rosendo, el caso Satanovsky y otros, y es el primero que genera este cambio, que luego seguimos muchísimos autores. Entonces, me interesa lo de la crisis de realidad porque tiene razón, Chiquito, hay una crisis de realidad, pero sobre todo lo que hay es una crisis de la realidad. Y lo que hacemos nosotros es no huir, sino soslayarla. Es como que buscamos un atajo como estrategia para abordarla. Y es lo que hace, me parece, Elsa, 20 años luz. Es una estrategia de elusión para ir ahí. Y curiosamente lo han hecho muchísimas mujeres. Lo hace Reina Roffé, lo hace Liliana Hecker, lo hace Nora Strejilevich, lo hace Alicia Cosamé, que son novelas en las cuales está tremendamente metido. Luisa Valenzuela también. Creo que los textos de Tununa también caben perfectamente, en estado de memoria cabe perfectamente ahí. Tu última novela, Tununa, también va por ahí. Es decir, la estrategia es eludir la crisis para reorganizarla en este tipo de textos que tienen estos componentes negros, porque lo que nos interesa es por qué. La razón siempre inexplicable del crimen, que en nuestro caso es el crimen de Estado.
Sí, por eso, perdón, quería decir que un poco... Oh, excuse-moi. J'oubliais complètement. Je me suis mis dans le...
Oui, je voudrais dire quelque chose parce que ce qu'a dit Panthé tout à l'heure m'a paru extrêmement intéressant en ce qui concerne cette crise de la réalité. Je voudrais y revenir une seconde. En fait, tout le monde le sait, le roman noir est fondamentalement différent du polar classique. On ne se demande pas, en fait, le roman policier classique explique le comment. Disons que c'est un peu le fait de Wilkie Collins, Conan Doyle, Poe, Agatha Christie, etc. Ils expliquent le comment du crime, comment cela s'est fait, et on le découvre à la fin. Le roman noir change tout à fait l'optique en posant la question du pourquoi, depuis Hammett. Et ainsi, donc, le roman des années 20 aux États-Unis se développe à partir de cette notion du pourquoi, et c'est ainsi que ces écrivains américains sont devenus en quelque sorte les pères fondateurs du genre. Et le crime, finalement, dans la littérature américaine, nord-américaine, est toujours d'origine sociale, est toujours liée fortement à la société, et cela va ainsi jusqu'au macartisme. C'est ça le roman noir, je pense. Et il a engendré, en fait, toute la littérature argentine. Et je pense que la charnière se situe autour de Rodolfo Walsh, qui commence, en fait, avec des romans très classiques, comme Variations en rouge, qui sont tout à fait le roman policier classique, le comment. Et puis il passe à toute autre chose. Et nous sommes tous engouffrés dans cette brèche. C'est vrai qu'il y a une crise de la réalité. La réalité elle-même est en crise, et plutôt que de la fuir, on essaye de l'éluder, de la contourner. Et je crois que c'est tout à fait typique de ce qu'a écrit Elsa Ossorio. Et très curieusement, finalement, c'est typique de plusieurs écrivaines. Je pourrais en citer beaucoup, Linda Nayer, Alicia Cosame, Luisa Valenzuela, et même Tununa, dans le dernier roman dont on parlait hier. C'est tout à fait cela. Je pense qu'il s'agit, en fait, de se réorganiser pour éviter la crise.
Elsa, vous vouliez réagir à l'intervention
de... Oui, j'ai oublié. Non, c'est ce que je voulais dire avant, peut-être je l'ai dit un peu trop vite, que la question est pourquoi, surtout pourquoi. C'est pas qui a commis ces crimes ou qui était le père dans ce cas, sinon pourquoi ces crimes, c'est... D'essayer de se donner des explications pour lesquelles il n'y en a pas, C'est-à-dire parce que quand on nous pose ce genre de questions, on n'a pas une réponse, on a un trou. Et tout ce qu'on fait avec le roman, c'est l'entourer pour essayer de donner des hypothèses qui ne sont pas dans le roman. C'est-à-dire peut-être l'écriture aide à mettre la parole là-bas où il n'y a pas. Parce que je crois qu'il faut, il ne faut pas essayer d'avoir une réponse. Parce que pour ce genre de fait, et peut-être nous, on n'aura jamais une réponse. Parce qu'il faut être vraiment criminel. C'est seulement le mettre en parole, c'est déjà quelque chose. Et c'est ça ce que je voulais dire un peu avant, avec le changement de rôle, c'est-à-dire le victime qui peut être détective, que finalement l'intrigue est, pourquoi toutes ces choses-là sont passées dans notre société.
Cela dit, c'est une belle définition, mais qui serait valable pas seulement pour la littérature policière, peut-être pour la littérature tout court, d'ailleurs, El Sensorio. Alors, avez-vous des remarques, des questions? On a quelques minutes, on a juste le temps de deux ou trois questions, si vous le souhaitez.
J'espère qu'on va m'entendre. Oui. C'est à propos justement, dont vous venez de parler, ça m'intrigue beaucoup parce que j'aimais beaucoup cette atmosphère dans les romans d'Agatha Christie, des pensions de famille. Et je pense que ça n'existe pratiquement plus en France depuis longtemps. C'est pas du tout à confondre avec l'hôtel. Ça n'a rien à voir. C'était une atmosphère beaucoup plus familiale. Et les gens étaient plus libres et en même temps, c'était beaucoup plus amical. Il y avait beaucoup plus de relations. Et je suis très intriguée justement que ça existe encore en Argentine actuellement. Est-ce que c'est une exception dans le monde ou est-ce que ça existe encore? C'était tellement bien aussi dans les... Je reviens à Agatha Christie, là, dans les descriptions de ses romans. Là. En effet, c'était très passionnant de voir des gens vivre, être en même temps indépendants et en même temps d'avoir énormément de relations sociales, d'être autour de la même table et tout. Ah, j'aimerais savoir.
D'accord. Alors, même pour...
Actuellement, ça existe encore. Alors, Buenos Aires.
Sí, nos miramos con Carlos y decimos si existe. Yo creo que sí existe, creemos con Carlos que sí existe. De hecho, el conventillo es también una... El conventillo, si lo pueden explicar, quizá vos, chiquito, puedas explicar qué es el conventillo. Es la pensión institucionalizada y ya como el pequeño hotel familiar. Esto existe en México, se llama la vecindad. Existe mucho en Chile, en Uruguay, y me dice Beatriz que también existe en España. Quizá es muy de la lengua española, quizá, ¿no?
Oui, nous nous concertions à l'instant avec Aglos pour savoir, enfin nous nous sommes regardés, et la réponse est oui, des deux côtés. Oui, ça existe toujours. Il y a cette forme de ce que l'on appelle le conventillo, et peut-être qu'effectivement, Ponte pourra l'expliquer un petit peu mieux. Le conventillo, c'est la pension de famille familiale, institutionnalisée. Elle existe aussi au Mexique, où on l'appelle vecindad. Et de la part de l'interprète qui est née en Espagne, la pension de famille est une notion très, très espagnole aussi. Et en France, elle a beaucoup existé au XIXe siècle avec la pension de, voilà. De Balzac. Oui.
Voilà.
Ah,
on sait. Oui, enfin, il y en a beaucoup. C'est une figure classique du roman policier. En tout cas, après l'auberge espagnole, voilà la pension de famille argentine qui joue un très grand rôle. Il est... quasiment l'heure. On va peut-être devoir en rester. Oui, il y a une question. Alors, une question rapide. Voilà, ce sera là.
Une toute petite question.
Oui,
j'ai regretté de ne pas être là au début de votre réunion. Mais il me semble que... c'est très intéressant ce que j'ai entendu. Je suis là depuis un quart d'heure seulement. Il me semble qu'il y a peut-être aussi une raison de sécurité pour les écrivains. Enfin, de sécurité, peut-être pas directe, corporelle, mais enfin, en tous les cas, de se masquer un peu en choisissant le polar. dans une société aussi, aussi militarisée et aussi dangereuse.
Oui. Alors, quelle est votre réponse sur ce point? Qui veut répondre? Ouais. Alors, non, Carlos Sampaio.
Opino que el nombre aparece, o sea que no veo la ocultación, salvo que sea una publicación anónima.
Non, non, parce que finalement le nom apparaît sur la couverture, donc où est le masque?
Oui, enfin, la critique, elle n'est pas directe quand même, elle est un peu voilée par le biais du roman policier. Oui.
Pardon. Vous pouvez répéter la question, on vous a mal entendu. Oui.
Non, non, je... le nom, il soit, ne résout pas tout à fait ma question. Effectivement, la réponse à ma question, je veux dire que le pourquoi peut être transposé à travers un roman de fiction, n'est-ce pas? Et donc, il peut ne pas mettre directement en cause, sauf pour les lectures subtiles, un peu plus subtiles, les autorités.
Oui, non, je ne sais pas. Quelqu'un a une réponse? Eh ben, Elsa, par exemple, votre livre aurait pu être un pamphlet terrible contre certaines pratiques qui ont eu cours pendant la dictature argentine. Ça n'est pas un pamphlet. C'est d'autant plus efficace, d'ailleurs, que ce n'est pas un pamphlet. Mais est-ce que c'est une façon aussi de se...
Oh, mais je crois que c'est... Bon, en tout cas, ce n'était pas la période de la dictature quand j'ai écrit ce roman. Oui. Et en plus, avec les choses qu'ils disent, je ne crois pas qu'on peut se masquer. C'est-à-dire que... Ça dit parce que ce n'est pas... Enfin, on le considère un roman policier après. Mais oui. Si on parle des choses de la société... Justement, on parlait de la société des gens normands, de la société, c'est impossible à se masquer. C'est plutôt le polar, c'est une qualification qui peut dire plus simplement ou plus facilement, si vous voulez, en France, en Allemagne, comme ça. En Argentine, on ne dirait pas que c'était un polar. On dit une autre chose, pas très sympa.
Vous l'aurez compris, aucun des auteurs ici présents n'a écrit de roman policier, ni même de roman noir. Peu importe d'ailleurs, la question n'est pas là. Ils ont tous écrit d'excellents romans que je vous encourage très vivement à lire. Je vous rappelle donc au moins les plus récents, le livre de Mempo Giardinelli, Les morts sont seuls, chez Anne-Marie Métayer, traduit par François Gaudry. Le livre de Carlos Sampaio, L'année où le lion s'est échappé, traduit également par François Gaudry. Je n'ai pas sous la main le livre d'Elsa Osorio, mais rappelez-moi chez Anne-Marie Métayer également, le nom du traducteur?
François Gaudry.
C'est François Gaudry aussi, décidément. Alors, hommage soit rendu à François Gaudry. Je n'ai qu'un livre ici de Nestor Ponce, Crise et Utopie, l'Argentine Crise et Utopie, mais il y en a bien d'autres en particulier.
Il y a un roman policier, si vous voulez.
Ah, ça y est, il a écrit aussi
sortir,
les policiers.
Donc, La Bête des Diagonales, donc, chez André Dimanche Éditeur.
Bon, alors voilà encore un vrai faux roman policier. En tout cas, je vous encourage vivement à lire tous ces auteurs qui écrivent, je ne sais pas si ce sont des romans noirs, des romans policiers, en tout cas, ce sont des livres qui ont la même exigence littéraire que n'importe quel livre de la meilleure littérature qui soit. Merci à tous d'avoir été parmi nous et je laisse la parole à Michel Abesca et ses invités qui vont évoquer Julio Cortázar. Merci et bravo à tous.